Très bien, donc nous sommes maintenant au complet. On va démarrer rapidement pour se garder un maximum de temps d'intervention pour nos intervenants qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui et puis de temps d'échange avec vous dans la salle. Donc cette table ronde, la C, est intitulée « Loisirs, jeux et culture dans la continuité éducative ». Nous y accueillons Laurent Dotti, à ma gauche, directeur du secteur éducation enfance-jeunesse de la ville de Mondeville. Solène Desfontaines, qui est chargée de mission aménagement culturel du territoire, dont la mission Jeunes ambassadeurs de la culture à Caen-la-Mer. Stéphane Passet, responsable du centre socioculturel de la Pierre-Eusée. Et Gaëlle Zanutini, responsable du centre d'animation enfance-jeunesse Association Mieux Vivre des Tentes à la Pierre-Eusée. Voilà. Donc, à partir des premiers échanges que nous avons pu avoir autour de la thématique de ces journées enfance et de la thématique de la table ronde, nous avons retenu quatre questions qui vont structurer les interventions de ce début d'après-midi et qui sont affichées sur le diaporama. Voilà. Donc la première de ces questions était « Quels sont les enjeux de la continuité éducative ?» Question sur laquelle nos intervenants ont été amenés à réfléchir.
Ils vont profiter d'ailleurs pour se présenter et pour expliquer un petit peu leur expérience de terrain. C'est l'idée de cette première question.
Alors, donc, comme ça a été dit, moi, je travaille dans une direction de la culture qui est mutualisée entre la ville de Caen et la communauté urbaine de Caen-la-Mer. Et je suis là particulièrement aujourd'hui pour parler d'un projet qui est le projet des jeunes ambassadeurs de la culture, qui est en fait un projet en direction des lycéens qui s'appuie sur le constat que les lycéens fréquentent assez peu, enfin les jeunes en général fréquentent assez peu les structures culturelles hors des temps où ils y sont contraints et donc souvent sur le temps scolaire. Et l'idée de ce projet, c'est de proposer à des lycéens volontaires de devenir ambassadeurs de la culture. Donc ils sont rattachés à une structure culturelle qui peut être tout aussi bien spectacle vivant que bibliothèque, cinéma, c'est vraiment très large. Et en fait, ils sont invités à découvrir cette structure culturelle tout au long de l'année, en découvrir les coulisses, via des rencontres avec des artistes. Et on s'appuie sur eux ensuite pour relayer cette expérience auprès de leurs camarades et de leur famille. Donc dans ce projet-là, l'enjeu de la continuité éducative, pour commencer à répondre à la question, c'est qu'on est sur un projet qui est à la fois un peu sur temps scolaire, mais quand même plutôt sur temps extrascolaire, puisque l'idée c'est qu'ils viennent dans les structures culturelles sur leur temps personnel, mais qu'ensuite ils puissent s'appuyer sur les lycées pour répandre un peu leur expérience et en parler. Donc c'est un travail en partenariat avec à la fois des acteurs du monde culturel et des acteurs du monde purement scolaire qui ont donc le même objectif, c'est-à-dire faire de ces jeunes-là les citoyens de demain et en faire des individus épanouis et capables de saisir d'un objet culturel et d'en parler, mais qui ont des outils un peu différents puisque on parle même référentiel et les structures culturelles... Essaie de ne pas être trop scolaire, justement, puisque l'idée, c'est de ne pas être sur une forme de contrainte. Voilà, en deux mots.
Merci, ça va.
Gaëlle et...
Ça démarche.
Donc, Stéphane Passé, je suis responsable du centre socioculturel de la Pierre-Eusée, qui est géré par Cave du Calvados. Et en fait, aujourd'hui, on voulait témoigner par rapport à une approche, puisqu'on parle bien du territoire Pierre-Eusée, avec Gaëlle... sur la notion de comment des acteurs éducatifs sur un même territoire peuvent intervenir pour faciliter la réussite éducative des enfants de ce quartier. Donc il y a toute une démarche qui a été faite suite à, et là c'est important qu'on puisse le poser aussi, suite aussi à une opportunité politique, hein, une volonté politique sur un territoire. L'ensemble des acteurs éducatifs, alors quand je dis bien l'ensemble des acteurs éducatifs, je parle à la fois du monde de l'éducation nationale, de l'animation socioculturelle, mais aussi du travail social, comment des acteurs professionnels, avec aussi la présence des parents, puisque les parents ont aussi leur propre expertise, peuvent vraiment fédérer un projet éducatif. Donc il est parti sur trois parties. La notion d'interconnaissance des différents acteurs. Ensuite, avoir une analyse un peu partagée des problématiques d'un territoire, pour ensuite en découler très concrètement sur des actions concrètes, qui sont liés à la thématique d'aujourd'hui, loisirs, jeux, culture, puisqu'en fait, on peut réfléchir tous ensemble, avoir une même vision, partager des points de vue différents, mais surtout aussi avoir des champs d'intervention qui ont des impacts sur les publics. Voilà. Donc, voilà pour le croche.
Sur la question des enjeux, Stéphane est revenu dessus, hein, mais c'était vraiment ça l'enjeu pour nous, c'était la question du travail ensemble au bénéfice des publics. Donc on est revenu sur la question du diagnostic commun, de l'interconnaissance. Concrètement, ça s'est traduit par des journées de rencontres avec des acteurs aussi variés que des ATSEM, des enseignants, des animateurs, des travailleurs sociaux, on en a parlé. Et effectivement, ça a donné lieu à toute une organisation... Et aujourd'hui, des actions concrètes qui ont encore lieu. Hein, c'est une démarche qui a eu lieu sur un an et demi. Voilà.
Laurent Dotti, je suis directeur de l'éducation de la ville de Mondeville. Donc, c'est une ville de 10 000 habitants. Et je vais parler à partir d'un projet de lieu passerelle MTA qui a été développé dans une école qui s'appelle l'école Langevin, sur un quartier d'habitat social, le quartier Charlotte-Corday. Et on pourra échanger à partir de ce projet sur la continuité entre finalement de la famille à l'école en fait, hein, puisque c'est un projet qui accueille des enfants de 2 ans et leurs parents dans l'école, dans un lieu un peu atypique, qui est co-animé par une EJE, une éducatrice jeunes enfants et une enseignante, et qui propose une séparation douce, une transition douce aux parents et aux enfants et à leurs enfants, ce qui facilite leur inclusion dans l'école et leur parcours de réussite.
Une question qu'on aurait pu se poser par rapport à la répartition en fonction des âges, plutôt
petite enfance,
plutôt lycéen, tout âge,
tout public. Y compris les parents.
Voilà, y compris la famille. Et cette continuité, justement, la deuxième question, est-elle absolument à rechercher partout, au même niveau, entre les plus jeunes ou les plus âgés, ou sur l'ensemble du parcours d'un enfant ? La parole est libre.
La plus baissère, mais la parole est libre, dans les tribunaux.
Bon, moi, j'enchaîne à nouveau. Donc, pour nous, je le disais, à la fois, l'objectif est un peu le même, mais on n'est vraiment pas sur les mêmes outils. Et donc, l'idée, c'est plus d'être sur une complémentarité, c'est-à-dire que, finalement, le lycéen, il a 2 référents. Un référent de la structure culturelle, qui est souvent la personne qui est chargée de médiation ou chargée du développement des publics. Et de l'autre côté, il a son référent au sein du lycée, qui peut être un professeur documentaliste, un professeur de lettres, souvent plutôt sciences humaines. Et donc, l'important pour lui, c'est bien que ces 2 adultes aient à peu près un discours cohérent, même si ils vont pas intervenir au même endroit, puisque le médiateur culturel, il va vraiment être dans une optique de transmission pour faire découvrir aux lycéens tous les coulisses de la structure culturelle, aussi les métiers de la culture, lui faire rencontrer des artistes, et il va être il va laisser le jeune vraiment libre sur la façon dont il a envie de jouer son rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire que ça peut être un relais simplement bouche à oreille, ou bien via les réseaux sociaux, c'est assez libre, ou dans son lycée, alors que le référent lycée, lui, son rôle, c'est quand même d'animer un peu la vie de son établissement scolaire, et d'accompagner le jeune dans son rôle d'ambassadeur au sein de la structure scolaire. Donc, par exemple, on va des fois avoir des conflits, mais par exemple, pour nous, ça ne va pas être très important que le jeune ne soit pas très à l'aise avec l'écrit ou qu'il fasse quelque chose d'orthographe, alors que pour le référent du lycée, souvent, l'intérêt, c'est quand même aussi qu'il y ait une forme d'apprentissage qui sorte de ce projet-là et que donc ça permette aux jeunes d'acquérir aussi des compétences très formelles comme bien s'exprimer, etc. Donc, à la fois, on cherche un peu la discontinuité puisqu'on n'a pas envie d'être dans un projet trop scolaire, puisque l'idée, c'est bien que ces jeunes soient volontaires et qu'ils puissent acquérir d'autres formes de compétences plus informelles grâce à ce projet-là. Et en même temps, on pourrait dire qu'on est dans une forme de continuité éducative puisqu'on a tous, à terme, un objectif d'éducation au sens très large, quoi.
voudrais réagir par rapport à ce que tu dis. Alors moi, je vais me resituer. On va passer de l'adolescence à la toute petite enfance en deux secondes, donc ça va être un peu... En même temps, les adolescents sont à la fois des enfants et des adultes, donc c'est peut-être pas si incohérent. Moi, en t'écoutant, je pensais que les objectifs, en fait, on en parlait ce matin, avoir des objectifs différents... dans le lieu passerelle, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir une éducatrice jeunes enfants qui va plus travailler autour du développement de l'enfant, sur la relation, sur la socialisation, qui est vraiment très centrée sur le développement de l'enfant, et une enseignante qui est plus sur, alors pas les apprentissages, parce qu'en même temps on n'est pas là-dessus, mais on est sur quand même la préparation aux apprentissages. Il y a une forme de... Alors au départ, il y a une forme d'acculturation en fait, c'est-à-dire qu'on a un échange et qui amène les uns et les autres peut-être à se décaler dans leur pratique professionnelle, dans la réalité quotidienne, mais pour autant en restant chacune dans leur rôle. Et ça, je pense que c'est intéressant dans la question de la continuité, c'est-à-dire qu'on disait lissage tout à l'heure, je pense que pour les professionnels, peut-être l'enjeu aussi, c'est de ne pas perdre leur identité professionnelle et leur rôle. Et peut-être qu'il y a, il y a une question forte autour de ça, qui est l'objet aussi de notre... Alors, ça rejoint aussi les enjeux. Mais alors, je ne réponds pas du tout à la question de la discontinuité éducative. Mais en tout cas, voilà, ce que tu disais me faisait penser à ça.
Donc, on note davantage peut-être une réelle prise en charge qui est proposée par la structure de l'enfant, tandis que là, c'est la structure qui demande aux jeunes, justement, de venir si ça les intéresse. Ce n'est pas la même posture par rapport aux jeunes.
Et encore que les familles, elles peuvent ne pas venir au lieu passerelle. Elles ne sont pas obligées non plus.
On est revenu beaucoup sur cette question-là, sur ces temps de transition, en fait, le passage petite enfance, voire collège, lycée, dans le cadre de nos échanges. Et c'est vrai que nous, dans le cadre du diagnostic, ça a été quand même beaucoup avancé, notamment par les familles et les professionnels, cette nécessité quand même de ces temps de transition, en fait, sur ces niveaux-là. Par contre, la question... de la continuité éducative à rechercher absolument. On est, nous, plutôt revenus sur la question de la complémentarité et de la cohérence. Notamment, on a vu, nous, toute la diversité des métiers et des profils, des approches, en se disant que finalement, on ne cherche pas forcément une continuité, mais plutôt la richesse de nos métiers et de ce qu'on peut apporter chacun aux enfants, aux familles, tout en étant quand même dans une démarche commune, et plutôt en termes de posture, de sens commun, finalement. Et c'est en ça qu'on cherche plutôt une cohérence, en fait, dans nos approches, mais en gardant nos spécificités et la richesse aussi pour les enfants, pour les jeunes, de ces approches-là. Donc ça a été quelque chose de particulièrement mis en avant, hein, notamment par les parents, en disant qu'ils pouvaient venir aussi chercher des choses différentes, et que ces aspects-là... Alors après, on parlait de la jeunesse. Alors ça fera peut-être partie de la question 4, mais je l'amorce quand même. Il y a quand même, sur la question de la jeunesse, on voit bien que sur le champ de la petite enfance et de l'enfance, les acteurs sont assez bien repérés. On le voit bien, enfin voilà. Après, sur la jeunesse, comme on arrive sur des territoires parfois plus grands, on a une espèce de maillage aussi qui a tendance à s'élargir. Et finalement, nous, ce que nous redisent les jeunes, c'est que parfois, ils se sentent un peu... plus tout à fait contenu, quoi. Et ils aimeraient bien aussi retrouver un peu ça, de se dire, finalement, plus personne n'est responsable de nous et on se sent un peu perdu dans cette approche-là. Donc le travail de la transition, le travail de la place de chacun, et ça a été abordé ce matin, notamment pour certains jeunes, au terme de repères dans la famille, c'est compliqué. Quand la famille est absente, les relais après sont parfois difficiles à trouver. Voilà, surtout pour des jeunes qui parfois ont des parcours scolaires un peu compliqués. Donc on a ces retours-là quand même de la jeunesse en nous disant on aimerait bien quand même à un moment donné qu'il y ait un maillage aussi qui puisse se faire autour de nous, quoi.
Nous, c'est vrai que dans ce projet, on n'est pour le coup pas très en lien avec les familles. Enfin, en fait, il n'y a aucun lien direct, parce que ce n'est pas l'objectif. Après, on observe que pour certains, il y a un effet indirect par ricochet, puisque finalement, le jeune ensuite parle de ce qui lui est arrivé raconte son expérience aussi dans son cercle proche. Et on a des, comme ça, des exemples où il a pu emmener ses parents découvrir des lieux culturels. Mais effectivement, il n'y a pas de relation directe entre la structure culturelle et les parents. Il y a peut-être plus avec le lycée, mais en général, c'est plutôt quand ça ne se passe pas bien. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est un âge où le lien avec la famille se fait très peu, quoi.
Alors qu'en petite enfance, il se fait beaucoup plus facile. On disait, effectivement, les acteurs, ils sont bien repérés. Enfin, nous, c'est la PMI, le CAMS, les structures petite enfance. Enfin, voilà, les acteurs sont souvent en réseau, assez facilement. Et les parents, on arrive quand même à les mobiliser plus facilement sur la petite enfance. Et généralement, même, c'est une stratégie, c'est-à-dire qu'on se dit, on les a petits, puis on va les garder. Et effectivement, à l'adolescence, les familles, on a, enfin, les parents, on a du mal à les voir, parce qu'on a aussi peut-être un problème de conflit, de, un peu de... Bah, on se dit, bah oui, pour le jeune, si on... Enfin, un peu un conflit de pas de loyauté.
C'est un peu ça, ouais. Si on fait intervenir les parents dans le projet, on perd le côté je viens en autonomie et je me construis aussi en tant qu'adulte.
Puis on avait précisé quand même que plus on rentrait dans des âges plus... Enfin, plus vers la jeunesse, on était plus dans des logiques qu'au départ, on est plutôt dans une logique proposée, une logique de service, et plus on va dans la... l'autonomie du jeune, on est plutôt dans des logiques de projet. Alors après, en fonction aussi des publics concernés, hein, c'est vrai que dans les territoires plus fragilisés, on va dire, c'est vrai que les logiques de projet ne sont pas tout le temps faciles à mettre en œuvre, mais c'est aussi tout l'art et le professionnalisme des acteurs, hein, pour mettre en évidence ces logiques de projet, quoi.
Là, je vois... Enfin... Sur le lieu passerelle, les parents donc sont accueillis dans la classe. Il y a une adaptation un peu comme on aurait sur une structure petite enfance. Il y a des ateliers de parents dans la classe. Est-ce que ce qui est notable, c'est que quand ça fonctionne bien, après, la collègue qui était enseignante en MTA, maintenant est enseignante de CPCE1, elle dit bien, finalement, les parents qui sont passés par cette MTA, j'aurais proposé des ateliers en CP, mais en fait, il n'y en avait plus besoin parce qu'ils étaient autonomes aussi. Enfin, peut-être qu'il y a moins besoin d'intervention quand on est autonome et quand on a eu cette... Enfin, ce que je veux dire, c'est que cette continuité, enfin, peut-être cette cohérence des acteurs, elle est très importante quand les enfants sont tout petits. Et puis qu'après, si ça s'est bien installé, peut-être elle est moins nécessaire. Enfin, c'est une hypothèse. Enfin...
Vous avez évoqué, Laurent, la question des acteurs en réseau. Cette question de travailler à plusieurs, elle ressortait aussi de votre présentation, notamment à Stéphane et Gaël, à partir de la volonté d'un diagnostic partagé, et notamment. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment les acteurs sur le terrain travaillent ensemble pour, alors je ne vais pas dire pour une continuité éducative réussie, contrairement à la question telle qu'elle était formulée, pour la complémentarité, pour la cohérence, je vais reprendre les mots que vous avez utilisés. Est-ce que les conditions sont réunies pour que ce travail en complémentarité et en cohérence puisse se passer, selon vous, correctement ? Quelles seraient les conditions à réunir pour qu'il puisse se passer correctement ?
C'était réellement l'enjeu, hein, sur un territoire, en tout cas celui de la Pierrosée politique de la ville, où il y a des moyens et des ressources importantes quand même. Hein, c'est comment, en fait, on crée un maillage qui permet de mettre l'enfant et la famille au cœur du dispositif. Donc c'est clair que comment on travaille mieux ensemble, comment on crée des orientations. On sait aussi qu'on a tous des environnements professionnels de plus en plus contraints, et que c'est comment on facilite cette interconnaissance, ce passage de relais, pour justement faciliter cette réussite, cette continuité. Donc ça a été vraiment ce travail-là, et on n'a surtout pas oublié l'expertise des parents, puisqu'en fait, qui peut mieux parler de son quartier que celui qui vit 24 heures sur 24, c'est bien les parents. Et donc c'était aussi tout ce travail-là qui a été mis en œuvre, avec un diagnostic des parents qui ont été accompagnés, parce que c'est vrai que c'est pas si simple. Vraiment, on est parti de cette matière et cette expertise-là pour essayer de trouver... des ajustements, et l'enjeu, c'était bien d'échanger sur nos pratiques professionnelles. Alors après, sur des principes de développement social, d'éducation populaire, et c'est sûr que les formations de base des différents acteurs n'étaient pas les mêmes. Donc qu'on soit du travail social, du monde de l'éducation ou de l'animation socioculturelle, on avait des écarts. Et c'est ça aussi qu'on a essayé de réduire par des échanges de pratiques. Alors après, il n'y a pas une bonne façon de faire, et c'est ça qu'il ne faut pas rentrer là-dessus, parce que la diversité des interventions auprès du public permet au public de créer de l'esprit critique. Et c'est aussi ces schémas d'autonomie qui peuvent être derrière mis en œuvre.
Mais les parents, est-ce qu'ils participaient à vos instances ?
Tout à fait, tout à fait. Les parents, en fait, on est parti d'une présence du recteur et du maire sur le quartier pour partir sur cette démarche-là, parce que de toute façon, s'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de mise à disposition des professionnels. Donc c'est vrai que déjà, les choses sont compliquées après. Donc là, il y a réellement une volonté politique. Et l'intérêt, c'était dès le début d'associer les parents. Alors plutôt des parents d'élèves élus, déjà qui ont cette notion de représentation, de représenter un corps de parents et aussi une réalité de territoire. Et ça a donné cette richesse-là. Et donc après, ça a été concret, hein, parce que c'est bien beau de réfléchir, mais l'intérêt, c'est qu'il y ait des répercussions concrètes. Donc on a mis en place un certain nombre d'outils un peu participatifs, genre théâtre forum, pour casser un peu la glace, parce que forcément... il faut mettre tout le monde en présence, c'est bien beau. Il y avait 70 acteurs, hein, donc que ce soit des parents, des enseignants, des travailleurs sociaux ou des animateurs, ou si j'en oublie pas. Mais globalement, on est à peu près là-dessus. Et voilà, c'est aussi des méthodes un peu plus interactives pour qu'on crée ce lien et ensuite qu'on travaille plus sur les modalités, les enjeux de chacun, pour qu'ensuite, concrètement, il y ait des actions de fait aussi, parce que plus on se connaît, plus à un moment donné, plus on connaît notre territoire, plus on agit de façon plus efficace en tout cas. Alors après, c'est pas miraculeux, mais en fait, la démarche, elle marche, enfin, ça fonctionne encore. Et...
Oui, ça fonctionne encore. On voit bien sur la question de l'enrichissement et puis les professionnels, quand ils se connaissent, voilà, on arrive à. Et puis là, on est aussi sur. Des instances qui se formalisent, hein, d'équipes éducatives, voilà, et pas qu'en cas de difficulté, et pas que, voilà, on parle d'équipes éducatives, ça pourrait faire penser à l'éducation nationale, mais au-delà de ça, c'est des acteurs qui se rencontrent et qui travaillent ensemble. Alors, il y avait la question ce matin du secret professionnel partagé. Au-delà du problème de secret professionnel partagé, je pense que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir des regards croisés par rapport à une situation. Ça ne veut pas dire que tout se règle sur ces instances-là. Il en existe déjà des instances de ce type-là, hein, type PRE, les programmes de réussite éducative. Mais là, on est plus sur une communauté éducative qui travaille en lien, et ça, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'il y a une vraie plus-value pour les professionnels, entre eux, individuellement et entre eux. Alors, ça n'empêche qu'il y a toujours des difficultés, hein. On a parlé de volonté politique, c'est vrai qu'on sait bien qu'on est dans des budgets aussi contraints, que les gens ont du mal à se dégager pour venir en formation, pour travailler ensemble. Voilà, mais sur une échelle locale, on y arrive encore et on bataille là-dessus. Mais tous les ans, il faut retravailler, redynamiser. Mais en tout cas, cette démarche-là, nous, on a souhaité qu'elle soit valorisée pour qu'elle puisse perdurer dans le temps et que les équipes qui arrivent aussi après puissent être dans la même dynamique. Et puis après, c'est des cultures de territoire. Hein, on a échangé. C'est-à-dire qu'on dit aussi que quand il y a des habitudes de travail ensemble, bah, même si les acteurs bougent, finalement, quand c'est bien implanté dans les territoires, c'est quand même des choses qui arrivent à perdurer et qu'on aille au-delà de la volonté individuelle des acteurs du moment. Voilà.
Alors, sur le projet des jeunes ambassadeurs, c'est un projet qui était multipartenarial dès sa construction, puisqu'en fait, c'est le Cinéma Luxe qui a eu cette idée-là et qui est venu le présenter à la communauté urbaine. Nous, tout de suite, on est allé voir le rectorat, puisque de toute façon, on ne pouvait rien faire s'il n'y avait pas d'envie de leur part. Et ensuite, on a associé l'ensemble des établissements culturels, donc il y en a quasiment une trentaine. Et les lycées, il y en a une vingtaine. Et donc, dès le début, il y avait cette question de réussir à travailler les uns avec les autres, de comprendre les enjeux mutuels voilà, de chacun. Et on voit qu'une des difficultés, c'est vraiment cette question pour le jeune d'avoir son binôme référent dans la structure culturelle référent lycée. Sauf que ces deux adultes-là n'ont pas toujours le temps de bien se échanger en amont, etc. Puisqu'il faut bien voir que dans une même structure culturelle, les jeunes viennent de lycées différents. Donc il y a une multiplicité d'interlocuteurs qui complique un peu les choses. Mais en tout cas, c'est vraiment une volonté de, voilà, de renforcer les échanges et de développer voilà, une culture professionnelle commune et de bien comprendre comment travaillent les uns et les autres et quels sont les freins ou les difficultés. Après, on parlait de quels étaient les éléments facilitateurs dans ce travail de partenariat. Je pense que c'est le fait que nous, communauté urbaine, on soit coordinateurs, puisque voilà, on peut vraiment trouver des espaces d'échange entre les différents acteurs impliqués dans le projet. C'est l'importance d'avoir, par exemple, en cours d'année, un temps où on se réunit, alors on ne peut pas réunir forcément tous les jeunes, mais d'avoir quelques délégués ou référents qui puissent faire remonter un peu les problèmes. Et puis surtout l'importance fondamentale des temps de bilan, sachant que c'est un projet qui a été juste expérimenté sur 4 mois l'année dernière et qui en est à sa première année complète cette année. Et on voit que déjà le temps de bilan de l'expérimentation était vraiment important, a permis de faire émerger... voilà un certain nombre de remarques de part et d'autre et d'envie aussi de mieux se connaître parce que les professionnels de chaque côté voient bien que c'est aussi ça qui va permettre de renforcer le succès du projet. Et après, il y a un élément aussi qui est plus facile parce que ce sont des adolescents, c'est le fait que les jeunes soient eux-mêmes en capacité de faire le lien entre les différents adultes et de, voilà, de dire « là, j'ai besoin qu'on ait un temps partagé » ou parfois, par exemple, nous, on connaissait pas la bonne personne au sein du lycée. C'est le jeune qui allait voir le référent culture et qui lui parlait du projet, par exemple. Donc, voilà, c'est aussi facilité par le fait que les premiers acteurs concernés par le projet, les lycéens, soient eux-mêmes en capacité de faire le lien entre les différents partenaires du projet.
Ce que tu dis, ça me fait penser à la question du chef de file, en fait, sur les territoires. C'est important d'avoir un acteur qui impulse, qui aussi propose un cadre de travail. Enfin, vous, c'est le cas. Dans le cas du projet MTA, c'était la commune qui a rassemblé les acteurs de la petite enfance pour monter le projet. Je pense que c'est aussi important de partir, enfin, dans l'idéal, on va dire, de partir sur un projet construit ensemble, co-construit au départ. Après, c'est beaucoup plus facile. Pour autant, ça s'accompagne et ça se... Enfin, il faut aussi avoir des temps, comme tu dis, de bilan, ou en tout cas des fois, on a des comités de pilotage, enfin, des structures qui permettent aussi qui sont régulières et qu'on active parce que la culture du territoire, ça s'entretient, quoi. Enfin, et ça se structure aussi, c'est ce qu'on notait, c'est-à-dire qu'il y a quand même besoin aussi d'un support institutionnel. Et ça, c'est important. Mais la notion de chef de file, je pense qu'elle est déterminante parce que aussi, ça induit aussi une posture de celui qui est chef de file, c'est-à-dire... une posture peut-être un peu d'une certaine, pas neutralité, mais ne pas imposer, enfin faire en sorte que tout le monde ait sa place. Et je pense que enfin, c'est déterminant dans l'ensemble des projets, au-delà de... Enfin, si on veut travailler sur de la continuité, si on veut que les acteurs travaillent ensemble, il faut garantir une égalité des acteurs dans le projet. Il faut, et c'est pas toujours facile. Enfin, moi, je vois par exemple, nous, mairie, on est à la fois juge et partie, quoi, enfin, d'une certaine façon, parce qu'on porte là aussi la MTA. Donc, et donc, pour animer un réseau d'acteurs, quand on est dedans et qu'on a des intérêts, eh ben, il faut aussi des fois prendre sur soi parce que, enfin, je sais pas, par exemple, on peut être en tension avec la PMI pour X raisons, enfin, oui, et du coup, il faut prendre du recul, et ça nécessite une vraie, enfin, une capacité aussi à faire un pas de côté, c'est ce qu'on disait ce matin, je pense que c'est important, et à sortir de sa place un petit peu à certains moments pour mieux y revenir, et pour essayer aussi de comprendre les contraintes des uns et des autres, et les enjeux, enfin c'est le partenariat quoi, mais, et accepter aussi ben, peut-être de pas faire comme l'institution le demanderait, et moi très franchement, enfin, avec les collègues de l'éducation nationale, parce qu'ils ont une institution quand même super descendante, on voit ça, l'inspecteur qui dit, bon ben, en off, enfin voilà, on va pouvoir faire comme ça. Enfin, moi, je me souviens de... là, c'était pas dans le pilotage, c'était dans le suivi du projet. Les gens de terrain demandaient à ce qu'on accueille tous les enfants de petites sections, ce qui n'était pas du tout dans l'idée du projet. Et ce qui n'était pas dans la norme définie par l'institution. Et l'inspectrice a dit, bon, ben, on le fait. Enfin, on s'arrange un peu avec le truc. Et ça, c'est important aussi qu'on ait une certaine marge pour pouvoir travailler ensemble et un peu remettre en cause ces principes quoi, d'action.
Si je résume à partir de vos interventions, il y aurait l'importance d'arriver si difficile que ça puisse être à dégager du temps pour travailler ensemble, dégager des espaces, alors soit des espaces physiques, des espaces symboliques, y compris à travers des instances qui permettent et qui favorisent l'interconnaissance, et une interconnaissance qui s'appuie aussi sur la reconnaissance réciproque de l'intérêt des approches des autres acteurs dans cette complémentarité éducative. C'est ça, c'est bien résumé. Bien. Et alors, pour faire une place peut-être un peu plus importante à ces jeunes, à ces enfants dont on parle depuis ce matin, finalement, qu'est-ce que vous pensez que les enfants et les jeunes pensent de ces dispositifs? Comment est-ce qu'ils les investissent? Est-ce que les retours que vous pouvez avoir vous permettent d'avoir un regard sur cette dimension-là?
En fait, les actions qui émanent de toutes ces réflexions, ces envies de mutualiser, d'expérimenter, je pense que Laurent a dit aussi, être innovant, parce que si on a des choses déjà fixées, à un moment donné, il faut juste rentrer dans les cases, donc il faut laisser de la place au public, ça c'est certain. Mais par exemple, ce qui en découle, on a de cette concertation, en fait, chacun faisait des actions culturelles un petit peu de son côté, et mutualiser aussi et des actions culturelles sur un même territoire tous ensemble permet aussi d'avoir une certaine continuité dans la progression et aussi une certaine souplesse dans la place que le jeune prend dans le projet, avec des fonctionnements, et on en a parlé ce matin, différents entre un projet d'école, un projet de centre de loisirs, de structure petite enfance, un centre social. Et en fait, la place justement des publics, elle peut jouer aussi là-dessus. Sachant que c'est vrai qu'on a quand même dit que dans la progressivité de l'âge des publics, forcément la place peut être plus importante. Mais ce qui est certain, c'est qu'on sent au niveau institutionnel, en tout cas, lié aussi au plan pauvreté dernièrement, qu'on met beaucoup le paquet sur la petite enfance, on met des moyens supplémentaires sur la petite enfance, parce que tout ce qui est pris dès le jeune âge a une continuité dans la progression. Alors on peut parler de l'autonomie dès le plus jeune âge, qui en fait, il expérimentera aussi, en fonction de la place qu'on lui donne, une place qui va être de plus en plus importante dans l'intérêt d'être citoyen, de progressivement prendre de l'autonomie dans les projets. Donc c'est ça, c'est essayer d'avoir aussi des projets qui impactent plus les publics en leur laissant une place qui permet d'être évolutif. Donc il ne faut pas que le projet soit complètement bouclé, mais bien qu'il soit dans la construction du projet.
On parlait de parcours, enfin on a beaucoup entendu le terme parcours ce matin, et c'est vrai que on n'a pas un retour direct de nos publics. Par contre, en se connaissant mieux, ce qui est certain, et en travaillant sur des dynamiques comme ça, c'est aussi pouvoir accompagner certainement mieux, voilà. Et puis, en connaissant les acteurs, de peut-être moins enfermer certaines familles ou certains jeunes dans des cases en disant « faut absolument que tu ailles voir tel acteur parce que c'est le seul qu'on connaît, finalement ». Enfin, voilà, et c'était important qu'on puisse aussi ouvrir un peu. Parce que plus on ouvre à certains acteurs, et c'est le champ du réseau après qui fait son travail, et du coup, je trouve qu'on, sur l'accompagnement des publics, oui, certainement, ça a un effet direct. Enfin, direct, avec du temps, mais ça a un effet.
Moi, c'est vrai que le public de la MTA, il a 2 ans, donc c'est pas facile de recueillir leur... c'est compliqué de leur demander quel impact de la MTA, je pense. Mais en revanche, alors, c'est dommage, je peux pas vous passer, parce qu'en t'écoutant, je regardais les photos que j'avais préparées sur le PowerPoint, mais je pourrais vous le transmettre. Et je pense que ça parle de soi-même, quoi. Enfin, je peux vous les faire passer si vous voulez. Enfin, et les enfants, enfin, je pense que le langage du corps, du coup, montre que ça doit bien, ça marche bien, quoi. Puis moi, quand je les vois, enfin, je sais pas, quand ils sont rayonnants et quand ils sautillent, par exemple, puis bon, ça va bien, quoi. Par tout ce qui est des parents, c'est plus facile d'avoir leur retour. Je pense qu'il est aussi dans le, pas forcément directement dans l'action qu'on met en place, mais dans la confiance, enfin, dans la confiance qui le marque. Par exemple, Solène Rouel, l'enseignante avec qui était dans le lieu passerelle, elle disait quand on se retrouve justement en CP avec des parents qui étaient en MTA, le lien se fait directement, quoi. Et je pense que ça vaut toutes les évaluations du monde. Pas besoin de faire du questionnaire, quoi.
pour nous, la question de l'autonomie du jeune, elle a été vraiment forte depuis le début. Déjà parce que c'est un projet qui est basé sur le volontariat, donc c'est quand même déjà un engagement volontaire de leur part. Normalement, ils ne subissent pas de pression pour le faire. Ça a aussi eu un impact sur le fait qu'on s'adresse aux lycéens et pas aux collégiens, alors qu'au départ, dans la première ébauche intellectuelle du projet, on aurait bien aimé être sur les collégiens et les lycéens. Et c'est justement la question de l'autonomie qui a fait qu'on n'a pas choisi les collégiens pour deux raisons. L'autonomie des déplacements déjà, puisqu'il fallait quand même être capable de pouvoir venir dans les structures culturelles. Et puis l'autonomie aussi sur l'usage des réseaux sociaux, tout ça. Bon, même si ce n'est pas une obligation, c'est quand même aussi une partie du projet. Donc c'est pour ça qu'on a choisi les lycéens, puisqu'ils ont quand même déjà une autonomie un peu plus grande. Et après, c'est vraiment resté un leitmotiv tout le temps du montage du projet, puisqu'on a bien dit qu'on ne souhaitait pas leur imposer d'outils pour jouer leur rôle d'ambassadeur. Pour le coup, si on a qu'on n'a pas envie d'utiliser du tout les réseaux sociaux, ce n'est pas une obligation. Si on a qu'on n'a pas envie de jouer un rôle fort au sein de leur lycée et qu'ils préfèrent juste le faire de façon plus informelle par connaissance interpersonnelle, c'est libre à eux. Dès le début, on a voulu les mettre en situation d'être acteurs et on s'est tout de suite projeté sur le fait qu'ils allaient co-construire le projet avec nous, qu'il allait évoluer en fonction de leurs envies, de ce qu'ils allaient nous faire remonter. Ça, c'était plutôt une frustration la première année, puisque comme on n'était que sur 4 mois, on n'a pas vraiment pu atteindre ce niveau-là. Ce qui est assez chouette cette année, c'est que comme on a autorisé ceux qui avaient fait le petit bout de projet l'année dernière à continuer, c'est ceux qui ont pris le plus d'assurance et qui se sont vraiment appropriés le projet. Et là, ils commencent à nous envoyer des mails ou à nous appeler en nous disant « Pourquoi on ferait pas ci? Pourquoi on ferait pas ça? Ce serait hyper intéressant pour le projet. » Et ça, c'était vraiment ce qu'on souhaitait dès le début. Et on espère que c'est ça qui va faire que le projet va rester pertinent année après année, puisque l'idée, c'est qu'il évolue pour coller aux besoins de ce public-là et pas qu'on balance quelque chose qui est très institutionnel et qui serait issu de nos représentations qui ne sont pas forcément les bonnes. Après, il ne faut pas se cacher que c'est très différent d'une personne à l'autre. On a des lycéens qui sont déjà, par exemple, dans une vision de leur parcours professionnel et qui, du coup, prennent ça très à cœur et puis ont les codes et se sentent légitimes, en fait, à le faire et donc nous prennent plein d'initiatives et puis on en a qui sont beaucoup plus timides et qui, étant habitués depuis longtemps à être dans un cadre scolaire où on leur dit quoi faire, sont un peu perdus quand on leur dit c'est libre, vous pouvez nous faire des propositions, mais expliquez-moi ce que je dois faire. Bon, il y en a qui ça a plutôt tendance à crisper, mais on espère qu'avec le temps, ce soit aussi la conséquence de ce projet-là, c'est qu'ils puissent ensuite prendre cette place qu'on leur laisse et qu'ils auront ensuite en tant qu'adulte. Et ce qui a été très intéressant cette année, justement, avec le fait qu'il y ait des jeunes qui continuent le projet l'an dernier, c'est qu'on le temps fort de lancement, où ils sont tous réunis en début d'année, où on leur explique le projet, on a essayé de le co-construire avec les anciens de l'an dernier qui continuaient le projet, et de les faire eux-mêmes intervenir sur des tables rondes pour raconter leur expérience. Et ça a vraiment bien marché, parce qu'ils étaient très impliqués, et qu'on voyait bien que pour les nouveaux, c'était beaucoup plus rassurant d'entendre des expériences vécues et que ce ne soit pas juste nous qui présentions le projet, mais que ce soit vraiment des jeunes qui leur expliquent comment ça s'était concrètement passé pour eux. C'était vraiment beaucoup plus rassurant pour eux. Donc je pense que c'est aussi, on l'a dit, mais le fait qu'ils aient cet âge-là qui permet qu'ils prennent de la place dans ce dispositif-là, en tout cas, c'était vraiment un objectif fort au démarrage du projet et on espère que ça va prendre de plus en plus d'ampleur avec le temps.
En parallèle des publics qui sont un peu outillés et qui se saisissent aussi d'opportunités de projets comme ça, on a aussi des publics empêchés hein, qui vont pas facilement sur les projets ou les logiques de service ou les équipements qui sont mis à leur disposition. Donc c'est vrai que c'est à nous aussi d'être innovants pour aller vers les publics, hein, puisque on est aussi professionnels et c'est à nous aussi d'aller vers les publics pour des personnes qui vont pas faire le premier pas. Alors c'est vrai qu'il y a sur le public ado, hein, il y a des initiatives, hein, entre autres, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a une initiative qui a été menée sur les réseaux sociaux qui s'appelle Promeneur du Net. Hein, c'est bien l'idée d'aller où les jeunes sont, puisque c'est vrai qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux ou le numérique. Et c'est vrai que l'intérêt, c'est bien de créer le premier lien pour ensuite créer, enfin, voilà, travailler avec eux pour ensuite les amener à faire autre chose et à être sur des logiques de projet où là, ils ont toute leur place, quoi. Donc ça, c'est aussi, faut qu'on soit aussi innovant dans nos interventions pour les amener à connaître autre chose qu'ils ne sont pas forcément amenés à connaître au quotidien.
Mais est-ce que tu ne penses pas que une des façons de mobiliser, enfin, le professionnel va vers le public, c'est bien, mais les parents, par exemple, qui mobilisent d'autres parents, c'est peut-être tout aussi pertinent. Enfin, je pense aux parents relais, qu'on a parfois sur certains quartiers ou qui eux peuvent mobiliser les parents et autrement. Enfin, sinon, c'est vrai que je pense, dans la continuité, on parle beaucoup de continuité entre professionnels, en fait. La question, c'est la continuité avec les publics, on l'évoquait là. Pour autant, est-ce qu'on accepte dans nos projets que les parents soient vraiment acteurs? Je suis pas certain, que ce soit si facile. Et par moment, heureusement, on a besoin d'eux, et notamment pour pisser d'autres publics. Et c'est à ce moment-là qu'on, enfin, nous, on a l'opportunité de leur laisser une place particulière, je trouve. Et dans le projet MTA, ça fonctionnait pas comme ça. C'était vraiment surtout des professionnels de la petite, enfin, ce sont surtout des professionnels de la petite enfance qui vont amener vers. Pour autant, l'image de la MTA dans le quartier, qui au début était un peu négative, parce que je mets mon enfant en lieu passerelle, c'est plutôt parce qu'il a des carences, il a des problèmes de langage, etc. Et petit à petit, du bouche à oreille entre parents, le regard porté sur le lieu passerelle est différent, et les parents viennent d'eux-mêmes, par connaissance, voir le directeur en disant, moi je veux que mon enfant il aille au lieu passerelle. Mais vous n'accueillez pas au début, on n'accueillait pas à la journée. Mais du coup, moi, ça ne m'arrange pas, etc. Parce que moi, j'ai besoin d'un accueil à la journée. Enfin, aujourd'hui, le dispositif permet d'accueillir la journée. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de penser la place, une vraie place dans le projet. Est-ce que je trouve...
Un acteur à part entière.
Voilà. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, Solène, c'est que d'un projet très institutionnel et descendant, vous arrivez à faire quelque chose qui est quand même partagé, où les jeunes, ils ont leur mot à dire, quoi. Et ça, c'est pas toujours le cas. Enfin, ça mérite d'être souligné, parce que ça crée des choses. Et c'est ça qu'il faut qu'on valorise, que c'est pas une perte de pouvoir, que ça développe au contraire. Et ça, c'est un enjeu fort à faire comprendre à nos institutions, à nos financeurs.
C'est peut-être aussi quelque chose de commun qui se dégage de toutes vos interventions, c'est l'idée de souplesse et d'adaptation pour être capable de répondre au plus près ou des besoins ou des envies sur les territoires, et de permettre que les projets puissent se développer, même si au départ on n'a pas une adhésion massive, et que progressivement tous les acteurs puissent prendre leur place.
C'est ça. Il y a une réelle complémentarité qui se passe. C'est sûr.
Ouais. La souplesse est rigolo ce que tu dis, parce que par exemple sur la récréation, donc normalement la classe c'est assez normé, la récréation c'est à 10h, etc. Et les collègues de la MTA, elles disaient, nous en fait, il n'y a pas de règle, quoi. C'est quand les enfants ont besoin d'aller en récré, quoi. Et il y a une souplesse à l'intérieur du fonctionnement de l'école maternelle où les autres enseignants acceptent que la récré soit bouge, et que du coup ça remette un peu en cause les récréations échelonnées. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est un renversement. En fait, c'est pas notre cadre qui fixe le travail, c'est l'inverse. On s'appuie, c'est ce qui était dit un peu ce matin, sur les, alors peut-être pas les besoins des, si, sur les besoins des publics, quoi. Et ça, c'est intéressant aussi à penser. Pour autant, il faut quand même un cadre qui tient, quoi. Donc c'est l'équilibre entre ça qui est intéressant.
Merci beaucoup. Vous avez été très rigoureux, et il nous laisse le quart d'heure qu'on avait programmé pour des échanges avec la salle. Donc, sans vous livrer vraiment en pâture à notre public, je vous invite à prendre la parole.
Oui, bonjour, merci de vos interventions. Moi, la question que je me posais, c'était, vous avez parlé de la mobilisation, d'essayer de faire remonter les intérêts des publics plutôt que d'être dans une situation descendante. La question que je me posais, c'était, quels sont les profils de ces jeunes? Est-ce que ce sont toujours les mêmes, peut-être, qui se mobilisent, ou est-ce que vous arrivez à mobiliser les plus difficilement mobilisables? C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce n'est pas toujours les mêmes, ceux qui participent peut-être en classe, ceux qui sont toujours partie prenante, ceux qui sont ou est-ce qu'on arrive tout de même à mobiliser des jeunes par les réseaux sociaux qui finalement ne seraient pas arrivés à ici si vous ne les aviez pas passés par des réseaux innovants par exemple?
Bah, je pense qu'il y a la diversité aussi des portes d'entrée, quoi. Enfin, ça, c'est très important aussi. Alors, les publics sont différents. L'intérêt, c'est justement d'être innovant dans ce qui est proposé, mais aussi partir. Enfin, l'idée, c'est bien d'aller où ils sont. Donc, à partir de là, c'est aussi partir de leur intérêt personnel pour ensuite les amener à autre chose, à l'ouverture de réseaux et à d'autres perspectives. Donc, la diversité des lieux, elle est importante, et des portes d'entrée, en fait. Hein, c'est super important. Après... c'est vrai que on peut partir aussi du principe que ceux qui ont déjà l'habitude d'être dans des logiques participatives continuent. Et demain seront soit des gens actifs dans leur espace de vie, soit des professionnels qui auront tous les bagages pour le faire. Après, c'est vrai que notre intérêt aussi sur des territoires prioritaires, c'est bien de toucher des publics qui n'ont pas accès à l'ensemble des choses qui sont proposées. On innove, j'espère qu'on est efficace, mais en tout cas, c'est à nous d'être innovants aussi. Moi, je sais que sur les locaux jeunes, tu peux peut-être plus en parler, mais...
Bah, c'est un débat qu'on a eu ensemble aussi, hein, dans le cadre de la culture avec Solène. Voilà, c'est les questions qu'on se pose. Hein, c'est est-ce qu'on touche toujours les mêmes publics? Voilà, la difficulté, nous, parfois, dans nos quartiers, c'est aussi parfois... le reproche, vous êtes très culture urbaine, est-ce que finalement vous les enfermez pas aussi dans un contexte dans lequel ils sont tout le temps? Voilà, et en même temps, on se dit qu'il va bien falloir qu'on ait des ficelles sur lesquelles on va tirer, et finalement, parfois ce projet-là, il est que prétexte à. Enfin, voilà, et moi j'ai vraiment apprécié l'intervention de ce matin, parce que c'est vrai qu'on est. Enfin, quand on reparle culture, jeux et loisirs, moi, c'est mon contexte de travail tous les jours. Et c'est vrai que ça nous permet de valoriser nos jeunes sur d'autres champs que le scolaire. Et ils en ont pour la plupart bien besoin. Et justement, à travers des projets culturels, peu importe celui qui va être choisi, mais on arrive à travailler ça, quoi. À travailler l'enthousiasme, le jeune qui va réussir à emmener 10 copains sur un spectacle, un jeune qui va être autonome, qui va faire tout le transport, voilà. Enfin, on va être vraiment dans d'autres logiques qui sont très riches, voilà. Et toi, Soane, tu pourrais expliquer aussi comment, voilà, vous allez aussi dans les lycées professionnel, enfin là où peut-être on attend moins le public, celui qu'on penserait aller facilement vers la culture, et puis les choix des lieux culturels aussi que vous avez pris, quoi, qui sont aussi très ouverts finalement.
Ouais, pour nous l'objectif à terme, c'est bien de réussir à rendre l'offre culturelle accessible et donc à faire savoir à des jeunes qui se dirait que c'est pas pour eux, que si, ils ont la légitimité de venir et de passer les portes. Après, on se doute que c'est moins ces jeunes-là qui sont directement ambassadeurs, mais que justement, l'idée, c'est de s'appuyer sur des jeunes qui sont déjà un peu intéressés par le milieu culturel pour aller toucher ceux qui sont plus éloignés. Donc c'est un truc un peu par ricochet. Après, même dans ceux qui sont ambassadeurs, on a des personnalités assez réservées, puisque on pense culture, on pense tout de suite spectacle vivant, quelque chose de très extraverti, mais on a aussi les bibliothèques, l'art plastique, des gens qui sont du coup qui ont une forme d'intériorité plus forte, et on les a vus vraiment s'épanouir au fil du projet. Et il y a des enseignants qui nous ont dit... telle personne, je l'ai trouvée vraiment transformée au cours de l'année, elle prend beaucoup plus la parole en classe, donc à terme, ça permet quand même à ceux qui ne sont pas forcément très à l'aise au départ de le devenir. Après, sur l'impact, pour vraiment toucher les publics plus éloignés, je pense qu'il va nous falloir quelques années d'exercice pour essayer de mesurer ça, puisque c'est quand même sur du long terme.
La première étape, c'est déjà de le mesurer, de le regarder. Moi, je change de casquette en tant que responsable de la jeunesse aussi. C'est-à-dire que j'avais travaillé avec un sociologue qui avait des sociotypes, c'est-à-dire il avait des jeunes villageois, donc ça, c'est les jeunes dont on parle, qui se mobilisent, etc. Il y avait les berniques, c'est-à-dire ils étaient collés dans les structures, on n'arrivait pas à les décoller. Et puis, il y avait ceux qui bougeaient tout le temps, dont le nom m'échappe. Et en fait, quand on travaille avec nos animateurs, on se rendait compte qu'il n'y a que des villageois dans nos structures jeunesse, quoi. Et déjà, le fait de se dire, on n'a que des villageois, Il faut qu'on mobilise les autres, enfin on avait les Berniques aussi, pardon, mais ceux qui bougeaient tout le temps et qui avaient le plus besoin, bah du coup déjà c'est déjà important quoi. Regarder, observer, réfléchir et se donner l'objectif de les mobiliser. Et après moi je Enfin, je te rejoins complètement. Les actions culturelles fortes, les temps forts, enfin, c'est ça qui mobilise. Quand on met en place un concert ou même, enfin, même le, on faisait des matchs de foot, on faisait du foot en salle, là, on avait tous les jeunes des quartiers, quoi. Et il y avait de la mixité. Donc, on a des outils qu'on connaît, qu'on peut mobiliser. Après, du coup, enfin, sur ton projet, c'est des choses qui est récent ton projet, donc ça va peut-être se développer aussi petit à petit quoi. Je crois qu'aussi c'est un élément important, c'est les projets s'inscrivent dans le temps et peu importe le point de départ, il faut le regarder puis après se donner des objectifs pour pouvoir élargir. Mais
oui, pour rebondir ce que vous dites sur les projets s'inscrivent dans le temps, le souci, vous parlez tous, vous avez des partenariats, que vous avez aussi des politiciens au-dessus, et le souci pour certains projets, je pense entre autres à votre projet au niveau de Colombelle, de Montville, puisque moi je vis dans une ville où on avait aussi une petite classe MTA de la même façon, et l'éducation nationale nous a dit stop, on enlève l'Institut, et du coup le projet qui avait sa façon d'être, qui avait son lieu d'être, ne peut plus exister parce qu'un des partenaires se retire. Et c'est un peu le souci de tous vos projets, c'est que on peut y croire, on peut en voir l'utilité, mais pour le défendre, s'il y en a un qui s'en va, on fait quoi après? Alors ouais, qu'on voit l'utilité à chaque fois.
Alors là, moi, je vais rechanger de casquette parce que je fais partie d'une association qui s'appelle l'ANDEV, l'Association nationale des directeurs d'éducation des villes. Et ce qu'on prône, c'est les projets éducatifs. Enfin, on n'est pas les seuls, mais on défend vraiment des projets éducatifs locaux qui sont forts, en fait, et qui peuvent contrebalancer... par exemple, les changements politiques qui font que on supprime la réforme des rythmes éducatifs, enfin, sans le dire, mais en fait, de fait. Et je pense que ça, c'est quand vous êtes sur un territoire avec une politique éducative structurée, vous êtes moins impacté par ce genre de choses. Pour autant, j'y pensais parce que moi, si je suis venu aussi défendre la MTA, c'est parce que effectivement, on dit que M. Blanquer semble avoir décidé de supprimer ces MTA qui fonctionnent pourtant. Et moi, je le vois, enfin, c'est quand même affligeant. Et je me dis, il faut aussi militer, en fait, présenter nos projets, etc. Et alors bon, je vais pas mettre un gilet jaune non plus, mais...
À Montville, vous êtes une grande ville, entre guillemets. Nous, on était petite ville de bord de mer, pas du tout territoire qui aurait soi-disant des besoins. Et du coup, les enjeux sont plus difficiles. Et pour se battre, c'est beaucoup plus compliqué.
T'as dit, il faut s'allier entre communes.
C'est ça.
Je me permets de répondre, je suis aussi directrice d'un service... moi, je m'occupe de la cohésion sociale, alors c'est un peu pareil. Et j'ai été directrice d'un centre social pendant 10 ans, dans une ville moyenne. Et il en va effectivement aussi du rôle d'accompagner les acteurs politiques pour faire comprendre aussi que le territoire, il a des spécificités, il a des... Et notamment sur le public jeune, enfin voilà, c'est pas forcément qu'une problématique de quartier. Alors tant mieux quand ça se télescope parce que ça fait des moyens supplémentaires et on arrive à mobiliser aussi. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur les actions innovantes parce que ça permet effectivement des expérimentations, ça permet de pouvoir justifier qu'on a des actions qui sont pertinentes à des échelles plus larges sur de cohésion, enfin, voilà, et que c'est pas parce qu'on a un micro-territoire à côté qu'il faut aussi le laisser... il faut que tout ça réussisse à cohabiter. Et c'est pas mettre de la concurrence dans tout ça. C'est au contraire d'essayer de mettre de la cohésion. Et moi, c'est, au quotidien, c'est éminemment important. Ce que je voulais redire, par contre, par rapport à ce matin, dans ce qui a été dit, et je trouve qu'on en a peut-être pas assez... pas assez parlé. C'est probablement aussi l'importance de ce maillage et de... Enfin, vous avez abordé la notion de communauté éducative. Alors, je l'attendais depuis ce matin, parce qu'il y avait quelqu'un qui l'a dit, parce que c'est ça aussi. Pour assurer cette continuité, pour moi, il faut aussi être un ensemble. Parce que sinon, on parlait de cohérence, c'est beaucoup plus
de sens commun.
Ouais. Enfin, on peut être cohérent avec soi-même, mais ça vient...
Non, mais pour aller dans votre sens, c'est vrai que, par exemple, on a quand même... Ce qui nous a pris du temps au démarrage de la démarche a été la question du COPIL. À quelle échelle on va? Qui on décide de mettre autour de la table? Et clairement, là, il faut être stratégique, quoi. Parce qu'on sait bien que si on est une échelle trop haute, c'est pas finalement... ça va pas faire remonter suffisamment. Et à l'inverse, il faut qu'on ait des décideurs autour de la table, sinon le projet il avance pas. Et c'est vrai que ça, c'est une difficulté. Et là, quand les acteurs autour de la table changent, eh ben, ça peut mettre en péril pas mal de choses. Ou quand on a un acteur qui se retire, c'est pas simple. Et on parlait de l'éducation nationale aujourd'hui. On voit bien, les enseignants, ils n'ont plus de temps de formation, pas de temps partenarial. Et c'est pas simple. Donc, il faut réinventer à chaque fois, il faut retravailler sur des temps différents. Et tous les ans, tous les deux ans, et même avec des projets éducatifs locaux bien posés, ça reste pas simple quand même, quoi.
On voit aussi un échelon, moi, je trouve, c'est assez prégnant. C'est-à-dire que l'échelon local, l'école, le directeur, surtout sur des quartiers comme les nôtres, sur lesquels ça vaut pour partout. Moi, je fais partie du réseau des directeurs du développement social urbain. Donc, ça fait partie des questions de fond. Mais on voit bien que ces écoles, elles sont aussi parfois, on parlait tout à l'heure de clivage un peu entre l'école et. Mais elles sont aussi en attente de ressources. Hein, et nos entités font aussi partie des ressources locales. Des fois, on n'est pas beaucoup. Hein. Nous, il y avait le centre social et l'école. Voilà, ça fait beaucoup. Mais c'était aussi, dès qu'on passe l'échelon du dessus, et par rapport à l'action sur les lycées et l'échelon collégien, c'est tout de suite plus compliqué. Enfin, on sent bien qu'il y a quelque chose qu'il faut réenclencher avec nos jeunes. Et moi, je rejoins ce que disait madame tout à l'heure par rapport au public non captif. Parce que oui, on en a plein des jeunes. Enfin, on en a plein. On en a, on sait où ils sont, ils vont au centre de loisirs, ils vont à l'espace jeune, ils vont machin. Mais. Ils sont où ceux qu'on ne voit pas là et qui sont souvent ceux qui sont aussi les plus démunis? Il faudrait bien qu'on fasse venir ambassadeur de la culture.
Au niveau des collèges et des lycées, il y a des instances qu'il faut mobiliser, c'est les CESC ou les CESCI. Vous savez, je crois que c'est Conseil d'éducation à la santé et la citoyenneté. Enfin, franchement, sur les territoires, il faut travailler avec eux. C'est c'est des cadres de travail inter qui s'ouvrent sur les territoires, qui sont internes aux établissements scolaires. Et franchement, quand on veut travailler à l'échelle des collèges et des lycées, ça fonctionne bien.
On arrive à passer la porte. Nous, l'atelier Santé Ville, par exemple, n'est jamais invité sur les collèges, ouais. Sur ces instances-là. Alors que la place, Dieu sait qu'en plus, elle fait un travail de maillage important sur ce champ-là. Enfin, typiquement, voilà, c'est des petits écueils territoriaux, mais je pense que c'est important, et pour revenir par rapport à madame, c'est important de pouvoir accéder là-dessus dans les politiques publiques, pouvoir justifier qu'à un moment, à nos élus, ces jeunes, à un moment, ils vont voter, c'est peut-être des futurs citoyens, et que si on leur donne les armes de pouvoir aussi apprécier leur collectivité avec les moyens qu'elle a, bah, on a peut-être gagné quelque chose. Quoi. Alors, je ne dis pas qu'on a forcément tout gagné, madame.
Ça souligne ce qui émergeait déjà de vos interventions, c'est-à-dire la nécessité quand même d'espace où on puisse construire ensemble, après dans des dimensions différentes, à des échelles différentes, mais on puisse construire ensemble. Est-ce qu'on peut se permettre une petite dernière question, si vous voulez, avant de prolonger les échanges de manière plus informelle sur le chemin de l'enfant?
Non, je vous en prie. Courte.
Oui.
Et du coup, la place du jouet dans vos structures et dispositifs.
C'est une autre table ronde. C'est une autre table ronde après.
Alors moi, je peux répondre sur la MTA.
Voilà,
très concrètement. Par exemple, on a des ateliers parents au sein de la MTA et on utilise justement le jeu comme médium, en fait, pour être avec les parents. Et ce qui est drôle, c'est que c'est pas tant le jeu en lui-même, enfin, c'est le fait d'être ensemble et de se retrouver, de se faire confiance, voilà. Alors après, enfin, le jeu aussi comme, bien évidemment, enfin, au-delà, comme le livre pourrait l'être, sur la relation parent-enfant, ça permet, enfin, je sais pas si vous connaissez les lieux accueil enfant-parent, on travaille beaucoup autour du jeu dans les lieux accueil enfant-parent, on se met en situation, etc. C'est le même principe appliqué dans la structure. Et en fait, on vit des moments ensemble, et à partir de là, on échange sur, par exemple, le fait d'accéder, enfin, sur le refus de la frustration, parce que ça vient, parce que, enfin voilà. Et c'est le jeu devient un prétexte. Alors, c'est plus des jeux. Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas tant sur les jeux symboliques, en tout cas dans les ateliers parents, mais on pourrait l'être. Enfin, et c'est un outil qu'on utilise en fait. C'est pas une fin en soi. C'est un support. Ouais. Et c'est, par rapport à en écho à ce qui était dit ce matin, c'est vrai que ce serait intéressant de ne pas lui donner une fonction avec un objectif absolument à atteindre, mais simplement le fait de se retrouver ensemble et de jouer, quoi. Dans les écoles, on devrait peut-être faire ça, en fait.
Alors après, nous, pour avoir une ludothèque sur notre quartier, qui est à l'intérieur du centre d'animation, là, il a été vraiment... Enfin, là, on est vraiment sur l'outil, mais qui est hyper intéressant. Enfin, là, en termes de croisement, de projet et de sens commun, il a été vraiment imaginé autour du jeu. Et il est allé rejoindre la question de la santé avec toute la prévention aux écrans, la MTA où il y a un vrai travail de constitution de mal de jouer et de jeu pour le week-end avec les parents. Enfin voilà, on a vraiment travaillé toutes ces dimensions-là. Les enseignants qui viennent sur le temps du midi se former à des jeux avant de les emprunter avec le ludothécaire. Enfin, il y a un vrai travail. Voilà, la garderie, enfin, tout ce qui est mis en place sur le quartier. Mais c'est vrai que ça, du coup, c'est devenu un outil commun. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Il est passé du... Enfin, avec ce travail-là, hein, je pense, de maillage, etc., il est passé de l'outil jeu, loisir, famille, voilà, à finalement un outil qui va servir à quasiment l'ensemble des acteurs, d'une manière ou d'une autre. Mais chacun, il va à son... propre regard, son propre métier, va y chercher, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Enfin, là, pour revenir à la question du jeu, effectivement, un outil comme ça. Mais alors, nous, on a la chance d'avoir une ludothèque, mais il y a des quartiers où il n'y en a pas, mais en même temps, il peut tout à fait avoir sa place mutualisée dans un projet de quartier ou de territoire. Mais il y a des territoires qui travaillent autour du livre. Enfin, je veux dire, ouais, après, nous, on est parti de ça, voilà. Mais après, voilà, ça pourrait être un autre objet. Mais l'objet jeu, il peut être hyper fédérateur. Et on voit bien comment chaque acteur s'en empare différemment. Et ça, c'est intéressant pour un même objet.
Il y a eu sur le quartier aussi, une, pour répondre aussi au support jeu et livre, en fait, il y avait une démarche collective du PRE de Caen. Sur les différents quartiers, à mettre des compagnies artistiques sur les territoires pour constituer un projet. Alors, on est parti des besoins des familles, des caractéristiques des familles. Entre autres, à la Pierre-Rosée, c'était l'idée autour de... Il y a beaucoup de familles allophones, hein, donc, et en fait, a été constituée une allophone qui ne parle pas le français, et a été constituée une malaïstoire. Une malaïstoire avec des ombres chinoises, donc avec une cabane noire, enfin, une tente où, en fait, qui est opaque, et il y avait des grilles qui ont été constituées, et chaque famille, chaque structure pouvait solliciter cette malle à histoire pour raconter des histoires. Mais en fait, comme on part d'un visuel, on ne parle pas de la langue, on parle vraiment de quelque chose qui est compté. C'est des outils interactifs qui tournent dans les différentes structures, qui sont créés par des parents, et à un moment donné, qui vit et qui continue à vivre, et qui peuvent aller dans d'autres quartiers aussi. Donc c'est aussi des... voilà, quand on parle aussi de loisirs, de jeux dans les quartiers, c'est aussi les compagnies artistiques qui viennent dans les quartiers, et c'est ça qu'il faut aussi qu'on arrive à préserver, mais avec des moyens aussi qui sont en baisse, donc pas facile. Mais quand on a l'opportunité de le faire, il faut absolument... très clairement, il y a un projet autour d'une pièce qui est faite dans le cadre de art éclat de rue, hein, où il y a une compagnie artistique qui va travailler avec des familles. Alors, on ne sait pas, au départ, le projet, justement, il n'est pas ficelé. C'est essayer d'associer aussi les enfants de l'école et ainsi de suite. Donc, c'est en construction. On est bien dans une logique de projet. On a des moyens de départ, on a l'opportunité politique et financière, on va dire, et ensuite, on avance, quoi. Mais justement, c'est là que ce n'est pas figé. Et c'est ça qui est important. Parce que là, on fait appel à la créativité de tout le monde, y compris des jeunes, des parents et des professionnels. Et là, on est bien dans des schémas, des fois, d'égal à égal. Et c'est ça qui est important, parce que là, on casse les scissions et les choses descendantes.
Moi, je pensais aux tapis qui comptent. Moi, on a des tapis qui comptent. Ouais. Et du coup, là, les parents, ils viennent lire les histoires, enfin, jouer, du coup, et lire les histoires. Enfin, et ils les fabriquent. Enfin, c'est tout un... Enfin, c'est des outils vraiment intéressants, les tapis.
Il y a peut-être un lien, quand même. C'est aussi la question des enjeux de nos structures. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que... Peut-être que notre force, ça va être aussi de peut-être déconstruire les enjeux institutionnels d'une structure à l'autre. C'est-à-dire que là, tous les projets culturels qui ont été montés ces derniers temps, ils n'ont pas été portés par une structure, ils ont été portés par un nombre d'acteurs. Et c'est vrai que les dossiers, on les a déposés à plusieurs, on a fait le choix que ça puisse passer d'une structure à l'autre et que ça ne soit pas étiqueté... centres sociaux, centres d'animation. Enfin, ça, c'est des vrais choix qu'on a fait et on a mutualisé des moyens qui ne sont pas des gros moyens. Parce qu'à chaque fois, on se dit, oh, bah oui, mais enfin bon, ça a coûté cher. Bah, pas forcément, en fait. C'est juste qu'on a essayé de penser les projets un peu différemment, peut-être qu'il y a quelques années, où finalement, on faisait tous un peu. Et là, de penser un peu plus collectif, finalement, ben, c'est pas inintéressant en termes de mutualisation de moyens. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce terme de mutualisation parce qu'il est galvaudé, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on pense différemment aussi qu'il y a quelques années où on faisait chacun et puis voilà, en fait, chacun reste sur ses prérequis. Et c'est peut-être ça qui bouge et qui est intéressant avec des démarches comme celles qui ont été initiées. Chez nous, mais c'est initié ailleurs et voilà. Et c'est pas...
Je vous propose, pour pas qu'on se mette en retard pour la conférence qui va suivre, de conclure sur cette idée qu'il y a des espaces de possibles et qu'ils sont à créer aussi au fur et à mesure pour pouvoir continuer cette œuvre éducative. Et puis poursuivre la discussion de manière peut-être un peu plus informelle sur le chemin de l'amphithéâtre pour la conférence.